Vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM.
Bonjour et bienvenue dans l'économie en direct sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en Ile-de-France, en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Ile-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Lorsque la recherche, l'innovation et les applications concrètes envahissent notre quotidien. Aujourd'hui, mardi 7 avril 2026, l'économie en direct va explorer un sujet passionnant. Comment les sciences humaines et sociales peuvent-elles devenir de véritables leviers économiques et comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle nos usages, notamment dans le domaine des applications mobiles? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir ce matin des experts engagés dans ces transformations. Christelle Ventura, directrice adjointe de CY Transfer en charge des sciences humaines et sociales. Bonjour Christelle.
Bonjour Jacqueline.
Luca Terchani, ingénieur d'études, développeur de Discoach. Bonjour Luca.
Bonjour Jacqueline.
Et Khadija Kani, CBI, alternante accompagnement start-up chez CY Transfer. Bonjour Khadija.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue à tous les trois dans l'économie en direct sur Radio IDFM, une émission à retrouver en podcast sur le portail idfm98.fr.
IDFM 98FM.
Mais avant de vous donner la parole, nous allons retrouver via le téléphone Anne-Lise Vistup-Gilbert, bâtonnière de l'Ordre des avocats du Val-d'Oise, qui souhaite nous parler d'un mouvement de protestation qui se met en place contre un nouveau projet de loi. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Jacqueline.
Merci d'être à ce rendez-vous. Je crois que vous souhaitez nous en dire plus sur cette grève générale qui a démarré là le 1er avril.
Exactement, et je vous remercie infiniment Jacqueline de me laisser la parole quelques minutes ce matin.
Mais je vous en prie, prenez votre temps, Madame la bâtonnière.
Je vous remercie. Le but est d'exposer donc les motifs d'opposition des avocats au projet de loi justice criminelle et respect des victimes. Oui. Alors, contrairement à ce que nous dit la dénomination de ce texte est loin de respecter les victimes. Il m'est impossible aujourd'hui de vous décortiquer le projet de loi en quelques minutes, mais je vais essayer de vous exposer quelques exemples des difficultés posées.
Oui.
La principale mesure du projet de loi concerne la création d'une procédure de jugement des crimes reconnus, qui donc serait appelée PJCR. Cette procédure serait calquée en grande partie sur une procédure qui existe déjà et qui s'appelle le CRPC en matière délictuelle. Alors, pour faire déjà un rappel simple, en France, les infractions sont classées selon trois catégories qui permettent de déterminer leur degré de gravité. Les contraventions,
oui.
Par exemple, griller un stop,
mmh.
Les délits, par exemple, un cambriolage, et les crimes, un viol, par exemple.
D'accord.
Donc là, cette nouvelle procédure concerne les crimes, donc les infractions les plus graves. Cette procédure simple de plaider coupable, qui, elle existerait en cas de reconnaissance intégrale des faits. Et elle consiste à solliciter dans un premier temps la non-opposition de la victime à une telle procédure, puis à convoquer l'accusé dans un bureau, oui, un bureau, avec un représentant du parquet, afin de négocier une peine. Une fois qu'ils se sont mis d'accord, la proposition de peine est homologuée par une cour d'assises composée de trois magistrats professionnels sans aucun juré populaire. Pas de débat, pas de témoin, pas d'expert, pas de parole donnée à la victime. Cette nouvelle procédure, elle pose plusieurs difficultés majeures aux professionnels du droit, car oui, il n'y a pas que les avocats, nombre de magistrats, nombre de greffiers sont également vent debout contre cette réforme, car elle ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons de la justice criminelle. Contrairement à ce qui est indiqué dans la dénomination du projet, il ne respecte en rien la victime, mais il lui retire au contraire la parole et fait peser sur elle une réelle pression. Par exemple, si elle n'a pas participé à la procédure d'instruction, c'est-à-dire à l'enquête qui est menée par un juge, la victime aura alors 10 jours. À partir du moment où le parquet choisit cette procédure, Elle aura donc 10 jours pour trouver un avocat, le rencontrer, qu'il se manifeste auprès du magistrat, qu'il sollicite une copie de l'intégralité de la procédure, qu'il la consulte, qu'il en rende compte à la victime, qu'il lui expose ses droits, que la victime prenne le temps de la réflexion, qu'elle se détermine en son âme et conscience, et enfin, qu'elle réponde au parquet. 10 jours pour choisir entre le plaidé coupable ou la procédure classique. Ce choix de la victime aura une conséquence directe, également sur la sanction à venir pour l'accusé. En effet, avec le plaidé coupable, l'accusé ne risque que 2/3 de la peine maximum encourue. C'est-à-dire, par exemple, pour un viol, il ne risquera plus une peine de 15 ans, mais seulement une peine de 10 ans.
Oui.
Ce choix aura également des conséquences directes sur la durée de la procédure. Vous l'avez bien compris, le principal avantage du plaidé coupable, c'est la rapidité. Alors, difficile pour moi d'expliquer l'ensemble des rouages ici du code de procédure pénale, mais pour faire simple, certains délais pour être jugés avec une procédure classique vont tout simplement être doublés. Concrètement, dans un dossier pour viol dans lequel l'accusé est en détention provisoire, la cour criminelle, qui avait jusqu'ici un délai d'un an maximum pour juger la personne, à défaut, il était mis fin à la détention provisoire, et bien aujourd'hui, avec cette réforme, la cour criminelle n'aura plus un an, mais 2 ans pour prévoir l'audience. Ce délai extrêmement long va nécessairement peser sur le consentement tant de la victime que de l'accusé pour accepter de passer par cette procédure accélérée du plaidé coupable. Donc pour résumer, ce texte qui s'appelle, je vous le rappelle, justice criminelle et respect des victimes, fait peser sur la victime une double pression, la diminution de la sanction aux 2/3 d'une part et l'allongement des délais à 2 ans d'autre part. Il y a aussi un second point de la réforme que je voudrais vous exposer très brièvement, c'est le recul des jurys populaires. Pour rappel, il y a quelques années, le gouvernement avait créé les cours criminelles départementales pour juger les crimes les moins graves, soit concrètement les viols, pour accélérer la justice. Les avocats, déjà à l'époque, étaient vent debout contre cette réforme qui permettait de juger des crimes sans jury populaire. Eh bien, ces cours criminelles sont aujourd'hui étendues en cause d'appel. Ainsi, certaines catégories de crimes seront totalement privées d'un jury populaire. À l'heure où la justice est sans cesse décriée, on en éloigne encore un peu plus le citoyen. Donc, je finirai juste cette prise de parole en vous rappelant un procès retentissant ces derniers mois, le procès Pellicot. Nous avons tous entendu parler du procès Pellicot. Croyez-vous qu'il aurait eu le même impact sur notre société si le principal accusé, qui reconnaissait les faits, avait négocié sa peine dans un bureau sans sa victime? Aurait-il été normal qu'il ne risque qu'une peine de 13 ans de réclusion en lieu et place des 20 ans qui ont été effectivement prononcés par la Cour? Pour conclure, je voudrais simplement insister sur un point. Les avocats ne se battent pas ici pour défendre un quelconque précaré, ni pour empêcher les délinquants d'aller en prison. Pas du tout. Les avocats se battent aujourd'hui pour défendre l'idée qu'ils se font de la justice et que nous sommes, j'en suis convaincue, nombreux à partager. Les avocats, ils se battent ici pour les victimes, pour que les victimes soient respectées. Voilà le message que je voulais vous faire passer ce matin.
Merci infiniment, Madame la Bottonnière. Merci pour cet éclairage. On comprend, à travers vos explications, que derrière cette mobilisation, qui, je crois, est d'ailleurs suivie par de nombreux barreaux en France, une certaine idée de la justice qui est en jeu, une justice qui ne veut sacrifier ni le débat contradictoire, ni les droits de la défense, ni la place des victimes au nom de la rapidité, si j'ai bien suivi votre explication.
Vous avez parfaitement compris, je vous en remercie.
Mais c'est moi qui vous remercie de faire confiance à IDFM Radio, et vous savez qu'on va relayer votre message autant qu'il le faudra.
Merci beaucoup.
À vous. À bientôt, Annelise.
À bientôt. Merci. Au revoir.
Au revoir. On marque une pause et on se retrouve après pour l'économie en direct.
Un peu spécial, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Elle se dessine sous des jupes fendues, et je devine des histoires défendues, c'est comme ça. Tellement si belle quand elle sort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Un peu largué, un peu seul sur la terre, les mains tendues, les cheveux en arrière, et j'aime ça. À faire l'amour sur des malentendus, on vit toujours des moments défendus, c'est comme ça. Tellement si femme quand elle mord, tellement si femme, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu. Son corps s'achève sous des draps inconnus, et moi je rêve de gestes défendus, c'est comme ça. Un peu spéciale, elle est célibataire, le visage pâle, les cheveux en arrière, et j'aime ça. Tellement si femme quand elle dort, tellement si belle, je l'aime tellement si fort. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue. Elle a tiré la première, elle m'a touché, c'est foutu.
Diversité, écoute, partage, IDFM Radio, votre média de proximité.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'accueille Christelle Ventura, directrice adjointe de CY Transfer en charge des sciences humaines et sociales. Luca Terchani, je prononce bien votre...
Très bien.
Très bien. Ingénieur d'études, développeur de Discoach. Et Khadija Kanisibi, alternante accompagnant d'une start-up chez CY Transfer.
C'est ça, j'accompagne les startups.
C'est ça. Merci, Khadija. Alors, pour commencer cette émission, je vous propose de faire un tour de table et puis de vous présenter en quelques mots votre activité, votre parcours, ce qui vous anime aujourd'hui. Puis après, on rentrera plus dans le vif du sujet. Donc, on enchaîne avec vous, Christelle.
Donc, je suis la
Christelle Ventura, pardon.
Merci. Je suis la directrice adjointe de CY Transfer. CY Transfer, c'est un service de l'Université de Cergy pour le compte de son alliance. Et nous sommes là pour créer le lien entre les activités de recherche et le monde socio-économique. Donc on s'intéresse beaucoup à l'innovation sous toutes ses formes, soit en maturant des projets qui viennent de nos laboratoires pour les transférer vers le monde socio-économique, soit en répondant à des besoins d'entreprises, de grands groupes, d'industries qui ont des besoins technologiques en recherche et développement et qui ont besoin du soutien de la recherche pour leur développement à venir. Donc on crée la connexion entre ces deux mondes.
Oui, un département que j'ai découvert avec vous et dont j'ai compris toute l'importance aujourd'hui de passer par ces sciences humaines et sociales.
Alors les sciences humaines et sociales, c'est 30 champs disciplinaires de tout ce qui va s'interroger sur l'homme. Comment il vit, avec qui il se marie, qu'est-ce qu'il mange, où il dort, en quoi il croit, comment il s'organise. Donc ce sont des disciplines, on va dire, intangibles, qui vont observer, accumuler du savoir, de la donnée. On est vraiment sur de la science humaine, sociale. On regarde l'homme dans son environnement et dans son organisation sociale. Du coup, ce sont des disciplines qui ne sont pas sur des paillasses, qui ne font pas d'expérimentation avec des éprouvettes. Et du coup, c'est quelque chose qui ne crée pas de rupture technologique, Et c'est des disciplines qui sont depuis longtemps le parent pauvre du financement de l'innovation. Parce qu'on est dans une société où l'innovation, on pense que c'est la technologie et que tout repose sur la technologie. Or, à l'université de Cergy, on part du postulat que l'innovation n'est pas que technologique. Que parfois, on peut avoir quelque chose qui va rompre nos usages, transformer notre société, et c'est pas forcément la technologie qui va générer ça. Donc on s'intéresse, et c'est un axe, dans une perspective très généraliste.
Dans un champ large.
Voilà, on a un axe qui va s'interroger sur les sciences humaines et sociales, et créer toute une chaîne de dispositifs pour que ces disciplines réussissent à rencontrer un public et à être transférées dans le monde socio-économique.
Et cependant, quand je vous écoute, moi j'ai eu l'opportunité de discuter avec un informaticien à un moment donné. Il me disait, pour créer un programme, ben je me lève le matin, je mets mes chaussures, je vais ci, je vais ça. Enfin, il disait que toute la séquence d'une vie était au fond la préparation d'un programme. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on est en train de dire.
Oui, c'est un séquençage pour accompagner des projets vers des programmes et vers des entreprises qui vont rencontrer un public. Donc nous, on appelle ça un continuum de projets.
Oui.
C'est-à-dire qu'on va détecter, sourcer dans les laboratoires une idée qu'on va accompagner pour rendre cette idée, la transformer en solution qui va répondre à des besoins, besoins qui viennent de la société, et l'accompagner encore tout du long pour que ce projet devienne une entreprise autonome financièrement, qui génère de l'emploi et qui diffuse à la société quelque chose de positif et qui lui fait du bien.
C'est ça, et qui construit le tissu économique et tout ce qui en découle.
Exactement.
Merci Christelle. Lucas, à présent, donc votre Luca ou Lucas ?
Luca.
Donc je vous laisse vous présenter.
Donc moi je suis ingénieur en intelligence artificielle, fraîchement diplômé depuis peu, et j'ai rejoint le projet Discoach, donc par le laboratoire Agora. C'est un laboratoire surtout linguistique, parce que le projet il part de la linguistique. Et Discoach, c'est un projet innovant sur qui mêle IA et le sport, plus particulièrement le tennis de table. Et c'est vraiment une application qui va permettre de développer les joueurs et les coachs par un coaching IA.
D'accord.
C'est vraiment la clé du projet.
Vous allez nous y raconter ça en détail dans quelques minutes. Merci Lucas. Khadija, je vous laisse vous présenter.
Alors moi je suis Khadija Sibi, du coup je suis alternante chez CY Transfer en tant que chargée d'accompagnement de start-up. Discoach fait partie des start-up que j'ai accompagnées dans le cadre de l'incubateur de CY Transfer. Et j'accompagne différentes startups sur différentes filières.
Et donc vous, votre parcours académique, Khadija ?
Alors, moi j'ai fait un BUT GEA. J'ai rejoint CY Transfer du coup en stage de troisième année l'année dernière. Puis j'ai continué en alternance en licence 3 à l'université Gustave Eiffel en management de l'innovation.
Très bien. Bon ben, j'aurai des questions à vous poser aussi tout à l'heure. Allez, on continue avec vous, Christelle. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour nous présenter, bien sûr, toujours votre mission au sein de CY Transfer. Mais aussi, vous voulez nous parler d'un incubateur dont j'ai compris qu'il était unique en France, mais peut-être plus qu'en France d'ailleurs.
C'est exact. Et merci beaucoup de m'inviter pour parler de ce projet que CY Transfer nourrissait de ses vœux depuis longtemps. Quand on regarde un petit peu les incubateurs, un incubateur, c'est un lieu où des projets ou de très jeunes entreprises viennent s'installer. Déjà, ça leur donne des locaux et bénéficier d'un accompagnement. Donc un accompagnement, ça va du coaching individuel à du mentorat, en passant par du soutien juridique, du conseil pour le business développement, ce genre de choses. Quand on regarde sur la grosse trentaine d'incubateurs de la recherche publique en France, on se rend compte que seulement 4% des projets accompagnés relèvent des sciences humaines et sociales. On a deux façons d'envisager la compréhension de ce chiffre. Soit les sciences humaines et sociales ne produisent pas d'innovation, soit les incubateurs ne répondent pas à un besoin d'accompagnement de ces projets. Nous, on a pris le parti d'imaginer que c'est la deuxième solution, puisqu'on est persuadé que les sciences humaines et sociales sont pourvoyeurs d'innovation. Donc on a
Prouvé d'ailleurs depuis le début du PU.
Voilà, ça fait quelques années que nous démontrons qu'il y a un fort potentiel, que nous finançons des projets, que nous accompagnons des projets dont Discoach, et nous sommes en train de démontrer que la valorisation socio-économique des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales est probante. Donc nous avons pris le parti de combler le trou dans la raquette en se disant, puisqu'il n'existe pas d'incubateur qui est capable d'accompagner les projets de sciences humaines et sociales, on va en développer un avec un pilier recherche. Donc c'est un incubateur scientifique qui va permettre de d'éprouver la future entreprise sur un pan recherche et qualité. Et c'est tout le vœu de CY Transfer, c'est de proposer ce premier incubateur scientifique à destination des projets issus des SHS.
D'accord. Donc un incubateur qui s'appelle ACT, qui s'écrit AKT.
Oui.
Et donc, il existe depuis quand maintenant ?
Alors, il existe depuis octobre 2025.
Oui.
Dans les locaux de CY Transfer, nous sommes hébergés à la Maison de la Recherche Annie Ernaux. C'est la Maison de la Recherche en Sciences Humaines et Sociales. Donc c'était un signal fort à la communauté SHS de s'implanter dans la Maison de la Recherche et d'y installer cet incubateur. Donc ce sont deux espaces d'un peu plus de 50 mètres carrés qu'on est en cours de réaménagement. Donc des sociétés sont déjà présentes. Et c'est pas un immense espace.
Oui, mais.
Mais déjà,
il a l'avantage d'exister.
Il a le mérite d'exister. Et surtout, on déploie une offre d'accompagnement qui est assez large et générée en interne. C'est-à-dire qu'on ne sous-traite pas l'accompagnement, comme c'est le cas dans beaucoup d'incubateurs. Cet accompagnement, on a pris le parti de le proposer de façon assez souple. C'est-à-dire que c'est sur rendez-vous. Les startups sont pas obligées d'être là tous les jours, ça peut être du flex-office, etc. Donc on essaye de créer un environnement au milieu des laboratoires de sciences humaines et sociales, à côté des équipes de CY Transfer, pour créer une effervescence intellectuelle autour des projets, et que les startups se parlent. Elles sont à des niveaux de maturité différents, il y a beaucoup de transferts de bonnes pratiques qui peuvent se faire, et puis on a constitué une équipe jeune, dynamique, pour justement insuffler quelque chose de très positif. On est sur des disciplines qui veulent avoir un fort impact sociétal et un impact positif sur l'environnement, sur le lien social, sur l'éducation, etc. Donc on est dans des perspectives de faire du bien à la société. Et c'est pour ça qu'on souhaitait cette émulation. Donc on n'est pas en capacité d'accompagner 30 projets par an, mais en tout cas on va les accompagner de façon très serrée pendant 12 à 18 mois suivant leurs besoins.
Donc un projet qui rend unique cet incubateur. Et alors, à qui s'adresse-t-il précisément ?
Alors, il s'adresse, on a plusieurs flux de projets, si je puis dire. On a soit des projets qui viennent de nos laboratoires, c'est le cas de Discoach. C'est un projet qui vient d'un professeur des universités en linguistique que nous avons détecté, que nous avons financé et qui est aujourd'hui incubé dans l'accélérateur. Donc ça, c'est le premier schéma. Le deuxième chez moi, c'est des jeunes sociétés qui viennent nous voir parce qu'elles ont un besoin de recherche ou qu'elles sont intégrées dans notre programme d'accélération. Parce que nous avons aussi transformé CY EdTech Labs, qui était notre accélérateur pour les EdTech, c'est-à-dire le numérique appliqué à l'éducation. Et nous avons renforcé, dans le cadre de ACT, cet accélérateur avec deux nouvelles filières, les industries culturelles et créatives et l'économie sociale et solidaire, qui sont deux forces de notre territoire également, également, et qu'on voulait surtout pas laisser de côté. Donc les sociétés viennent pour le programme d'accélération qui dure 4 mois. On les refait rencontrer l'écosystème scientifique et sur à peu près 10 à 12 projets par an, deux startups vont rester en accompagnement post-programme parce qu'il y a un lien avec un laboratoire de recherche, c'est fait, un projet commun s'est monté et là, on leur propose d'être accompagnés et incubés à ACT pour que la suite logique soit cohérente.
Oui. Et alors, comment les chercheurs autres qu'en sciences humaines et sociales ont-ils accueilli ce projet d'incubateur ?
Très bien, puisque en fait, toutes les disciplines ont des incubateurs qui sont spécialisés. Vous avez Agoranov, par exemple, qui est spécialisé sur le numérique. Vous avez tous les incubateurs. En économie sociale et solidaire, il y a beaucoup d'incubateurs aussi qui existent. Et c'est vrai qu'on s'installe sur un champ qui est pas du tout exploré et peu exploité.
Donc il y a tout à faire.
Et on a vu une belle adhésion, en fait, à ce projet-là, de dire enfin. une offre de service qui répond à un vide.
C'est attendu, oui. Donc, vous êtes très enthousiaste, hein, je comprends, pour par rapport à ce projet.
Oui, très enthousiaste, parce que moi, je suis persuadée que l'accompagnement fait la force des futures entreprises. Alors, ça serait faux de parler de start-up, hein, puisqu'une start-up, c'est une société innovante qui a une croissance extrêmement rapide. C'est pas le cas des sociétés qu'on incube chez Act. Chez Act, c'est des jeunes entreprises. Ce sont des petites entreprises. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'elles, quand elles partent, elles soient robustes financièrement et qu'elles puissent générer de l'emploi sur le territoire. C'est notre mission, c'est de générer de l'emploi et de la valeur.
Et alors, est-ce qu'il y a des défis rencontrés par ces porteurs de projets en sciences humaines et sociales?
Alors, le principal défi, quand on a une méthode de travail qui vient des sciences humaines et sociales, quand on a des données, etc., c'est de le transformer en quelque chose de tangible. C'est-à-dire quelque chose qui peut être utilisé. Et pour faire quoi? Oui. Déjà, est-ce que ça répond à un besoin? Alors, sur les EdTech, sur le numérique au service de l'éducation, clairement, on peut identifier des besoins autour des populations dyslexiques, on peut identifier des besoins et répondre à ce besoin. Et du coup, la science peut se transformer en solution tangible. Dans le cadre de recherches en histoire, en sociaux, etc., tout dépend, en fait, de qu'est-ce qu'on a comme données et comment on peut la transformer en solution. C'est notre rôle aussi de proposer des transformations en solutions qui vont répondre à un besoin. Donc notre rôle, c'est autant d'identifier les projets que d'identifier les besoins.
Oui, bien sûr. Est-ce que les... Donc moi, comme je vous l'ai dit en off, je découvre autour de moi plusieurs personnes qui sont docteurs en sciences humaines et sociales. Est-ce que ça va créer un engouement aussi vers ces études, votre avis?
Alors,
vaste question.
Vaste question. Moi, j'ai un doctorat en anthropologie.
Oui.
J'ai appris énormément de méthodes j'ai développé des compétences qu'on transfère très bien dans l'écosystème économique et dans le monde de l'entreprise. C'est peut-être ça que les jeunes étudiants, peut-être qu'on leur explique pas assez. Que les sciences humaines et sociales, certes, ce sont des disciplines comme l'histoire, comme la philo, etc., qui semblent, on n'a pas l'impression qu'ils vont apprendre un métier, mais c'est justement...
En réalité,
on développe de très grandes compétences. On avait fait le test une fois sur le nombre de compétences qu'on est obligé de mobiliser pour écrire un article scientifique. On était à plus d'une trentaine.
Oui, c'est ça. En fait, vous créez des ponts entre les uns et les autres.
C'est ça. Ouais, c'est ça. En étudiant la société et en étudiant l'homme, il y a un basculement qui fait que... Voilà, on a envie de faire du bien. Par contre, quand on veut faire de la valorisation socio-économique, ce qu'on voit souvent, c'est qu'on a un projet technologique et puis on va prendre des consultants en sciences humaines et sociales pour réfléchir avec eux à l'acceptabilité sociale de la technologie. Moi, je me demande si on inverse le paradigme.
Oui.
Est-ce que c'est pas plus intéressant pour le cas des SHS? C'est-à-dire qu'on prend un projet SHS, on prend des données, on injecte de la technologie dedans, et c'est un peu le cas de Discoach. On injecte de la techno pour rendre pour créer une solution et là créer un marché.
Oui, oui. Merci Christelle. Si vous deviez adresser un message à celles et ceux qui hésitent à se lancer dans l'entrepreneuriat en sciences humaines et sociales, qu'est-ce que vous leur diriez?
Alors sur le territoire ici, l'offre d'accompagnement est très dense et très belle et harmonisée, puisqu'on travaille vraiment avec tout un réseau de partenaires pour le continuum de projets justement. Donc à chaque étape de votre création de projets puis d'entreprise, vous aurez des relais sur le territoire et du coup vous ne serez jamais seul. Vous pourrez toujours bénéficier d'un accompagnement et il faut vraiment aller voir tous les acteurs de l'accompagnement et de l'innovation parce qu'on a beaucoup de choses à vous apporter. Et ça vous consolidera et j'espère que ça vous rassurera dans votre choix aussi.
Sûrement, je pense que ça ne peut qu'apporter un plus, c'est clair. Merci infiniment Christelle, mais enfin je pense que vous interviendrez à nouveau avec Luca et Khadija, mais en tout cas merci pour votre éclairage passionnant. On sent que vous êtes passionnée, ça vous le transmettez bien.
Merci Jacqueline.
Merci. Allez, on fait une nouvelle pause et on va écouter Vianney et Gustavo Duhamel et l'orchestre philharmonique de Radio France. Je crois que le titre c'est Alléluia.
Un jour une dame a dit d'accord, donnez vos larmes, j'en ferai de l'or. On raconte qu'elle sommeille en chacun de nous. Elle n'a pas d'âge et son visage importe moins que son message. Un jour viendra le temps de l'Alléluia. Alléluia. 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 Un jour la dame a dit d'accord, je prends les flammes mais pas la mort. On raconte qu'elle a fait son refuge en nous. Après l'effroi vint le soleil et la revoilà de ses merveilles. Alléluia, 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 Alléluia. Un jour la dame dit: vous voulez fort, gardez la paix comme un trésor. On raconte qu'elle est belle mais fragile comme nous, qui abandonne et déjà mort, mais qui espère, respire encore. Et le monde attend le temps de l'Alléluia. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia.
IDFM Radio, par nous, pour nous.
Merci d'être resté avec nous. C'est toujours l'économie en direct. Et ce matin, c'est notre spécial CY Transfer en compagnie de Christelle Ventura, directrice adjointe de CY Transfer en charge des sciences humaines et sociales, Lucas Terchani, ingénieur d'études, développeur de Discoach, et Khadija Sibi, alternante accompagnement en start-up chez CY Transfer. Pardon. Alors Lucas, donc vous êtes ingénieur en IA. Donc quand j'ai découvert ça, c'est une discipline qui n'existe pas depuis très longtemps, ingénieur en IA.
C'est au cœur de toutes les discussions aujourd'hui, même tous les projets en informatique. Il y en a beaucoup et beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à l'IA et beaucoup de projets qui contiennent de l'IA maintenant, dont Discoach. Je pourrais expliquer.
Oui.
Donc oui, c'était une en dernière année de mon école d'ingénieur, j'ai choisi comme spécialité IA.
Oui.
C'est vraiment quelque chose qui me passionnait pour plus tard et pour l'avenir.
Donc, vous, l'IA, qu'est-ce qu'elle, avant de parler de Discoach, qu'est-ce qui vous fascine dans l'IA ?
L'IA, c'est la possibilité de toucher à tous les domaines. Mmh. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir des IA pour le sport, pour l'éducation, pour plein de choses, des sciences humaines et sociales qu'on parlait. C'est vraiment pluridisciplinaire et ça va toucher à tout. C'est vraiment ça que j'aime bien dans l'IA. Et aussi, c'est la rapidité d'information. Il y en a beaucoup qui utilisent l'IA au quotidien pour rechercher des choses, pour apprendre des nouvelles choses
oui, c'est
aussi.
C'est assez magique.
C'est ça, c'est assez magique. Donc, pouvoir travailler là-dedans, c'est aussi intéressant pour moi.
Et donc, le fait de devenir ingénieur en IA, enfin, j'ai du mal à le concevoir, hein, à vrai dire. Qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous apportez à l'IA?
Bah, déjà, premièrement, mon parcours, c'est un parcours d'ingénieur informatique classique. On touche à tous les domaines, que ce soit la cybersécurité, le développement d'applications, plein de choses comme ça, le réseau. Et l'IA, c'est vraiment en dernière année que je me suis mis dedans. Et l'IA, ça apporte beaucoup de choses sur ce qui est apprentissage de modèles. Les modèles, c'est, pour faire clair, on va dire, c'est un concept qui va permettre de cibler un domaine, comme je parlais. Il peut y avoir des modèles d'apprentissage sur le sport, sur plusieurs choses. Et toutes ces connaissances de domaine, ça apporte des plus pour certaines parties. Par exemple, dans notre application, on va avoir des modèles pour l'analyse de sentiments et d'émotions. Donc, d'accord. C'est des choses vraiment très précises.
Ah oui, oui, d'accord. Parce que l'intelligence artificielle, elle évolue très vite.
Oui, très très
vite. Donc, il faut tout le temps être au point de...
Il faut rester à jour.
À jour.
Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, il faut vraiment avoir de la curiosité sur ça, sur ce domaine. Que ce soit il y a 6 mois et aujourd'hui, il y a une évolution qui est énorme. Il y a beaucoup d'entreprises qui sortent aussi leurs propres modèles, leurs propres solutions.
Oui, c'est vrai.
Soit en design,
c'est
en graphisme, etc. Donc, ça peut apporter à tous les domaines. Il faut essayer de rester un petit peu au courant de chaque domaine.
Sur le pont.
Voilà, c'est ça. Même si certains domaines sont très éloignés de ce qu'on fait, c'est bien de rester au courant de ça.
Au courant. Et en même temps, ça doit être passionnant.
Aussi, oui,
certainement.
Bien sûr.
Alors donc, présentez-nous votre rôle au sein du laboratoire Agora et vos domaines d'intervention.
Alors moi, déjà, j'ai rejoint le laboratoire en tant que stagiaire de fin d'études, donc pour mon diplôme. Le projet démarre de Julien Longhi. Donc Christelle parlait de lui, c'est un linguiste. Et il a eu idée de ce projet donc dans le tennis de table, parce qu'il fait du tennis de table, il coach aussi dans le tennis de table. Donc il avait un projet de coaching pour les joueurs avec de l'IA, donc une application qui aiderait pour coacher des joueurs directement sans besoin de coach. Et donc j'ai rejoint ça, donc le projet était vraiment à zéro, il y avait juste l'idée. Donc on a tout développé, j'ai aussi un collègue qui travaille avec moi. Donc on a tout développé from scratch, on dit donc de zéro. Et on a fait beaucoup de choses, que ce soit la récolte de données, on a travaillé avec les coachs du Val d'Oise qui nous ont aidés à récupérer des audios réels en situation de match ou d'entraînement,
donc
de coaching. Et nous, d'ailleurs, on a travaillé ça. Donc, c'était mon rôle au départ du projet. Après ça, on a analysé les discours, etc. Et maintenant, il y a beaucoup de développement. On est surtout en ce moment sur l'application, le déploiement, et essayer de le mettre sur les plateformes, donc les Apple Store, etc., pour que ce soit accessible à tout le monde.
Donc, c'est-à-dire que si moi, demain, je veux apprendre le tennis de table, je sors votre application et je deviens championne.
J'espère pour vous. C'est l'objectif.
Mais donc, expliquez-moi comment ça fonctionne.
Donc, c'est surtout avec le vocal. Beaucoup de personnes pourraient imaginer l'analyse vidéo, mais c'est beaucoup sur le ressentiment. D'où le fait de la linguistique, on travaille sur les émotions. Donc, le joueur va pouvoir s'enregistrer pendant un match, un entraînement, etc., dire comment il se ressent, dire ses difficultés, ou pendant un entraînement, j'ai envie de travailler mon service, mon revers, je suis vite essoufflé, des choses comme ça. Et le coach IA va pouvoir donner des exercices, des réponses précises pour aider le joueur. Et il va avoir un suivi avec le temps, donc sur ses sentiments, s'il est tout le temps négatif, s'il parle trop de sa technique ou de sa motivation, des choses comme ça, pour avoir un petit peu un équilibre. Donc ça va aider aussi sur le plan mental et sur le plan technique. L'application, elle propose aussi des générations de plans d'entraînement pour avoir un entraînement complet à faire chez soi tout seul. Et également, du coup, juste l'accompagnement, comme un coach pourrait le faire.
Et du coup, alors c'est pas très sympa pour les coachs, finalement.
Eh ben, si, justement.
Ou alors est-ce que les coachs...
Les coachs peuvent...
C'est eux qui ont l'application, maintenant.
Donc, il y a deux parties sur l'application.
Ouais.
On a pensé à tout le monde. Un côté coach et un côté joueur. Mmh. Le but, c'est pas de remplacer les coachs, c'est d'aider les coachs.
Mmh.
Lorsqu'on a rencontré les coachs du Val d'Oise, ils nous ont dit que, par exemple, ils avaient beaucoup de joueurs qui partaient en tournoi. Ils ne pouvaient pas être présents. Ça arrive beaucoup, ça.
Ah, oui.
Donc, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. Et les joueurs, quand ils vont s'enregistrer, déjà, ils vont avoir les conseils du coach IA. Et en plus, leur vrai coach, ils vont pouvoir avoir un historique. Donc, quand ils vont revenir à l'entraînement, ils vont savoir quel joueur a eu quelle difficulté et avoir un accompagnement.
Oui, faire un feedback.
C'est ça, exactement.
Ouais.
Et les coachs, du coup, ils peuvent vraiment avoir ce suivi pour les joueurs qui ont déjà un club, parce que ça s'adresse aussi aux joueurs qui n'ont pas de club. Donc, les joueurs qui ont un club, leur coach peut vraiment suivre et apporter leur expertise en plus de l'IA qui intervient au quotidien.
Est-ce que vous avez pu proposer votre application aux frères Lebrun? Non.
Pas encore. J'espère un jour, potentiellement. Oui.
Christelle, vous nous disiez que c'était une application qui avait, voilà, qui était en train d'exploser.
Alors, en fait, c'est vraiment l'illustration de ce que je disais tout à l'heure sur l'inversion du paradigme. On a un professeur des universités qui est spécialiste en linguistique et en analyse des discours. Mm-hmm. Qui se rend bien compte que quand il entraîne les poussins au ping-pong, il rate des événements, il rate des choses. Quand il part en tournoi, il peut pas toujours être là. Et il imagine une traçabilité de ce qu'ils ont ressenti. Mmh. Et du coup, il imagine cette application-là. Il vient nous voir avec ce projet-là. On regarde un petit peu l'état du marché, qu'est-ce qui existe. On se rend bien compte que toutes les applications mobiles ne s'intéressent qu'au rythme cardiaque, à la sudation et ce genre de choses.
Oui, oui.
Et on se dit, mais il y a peut-être quelque chose vraiment d'intéressant sur le discours, justement, qui est complètement mis de côté de toutes les applications sportives. Mais pour que ça fonctionne, il faut de la technologie.
Bien sûr.
Et du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. On part d'une base de sciences humaines et sociales. Mmh. On injecte de la technologie et de la technologie de haut vol, puisqu'on a Luca, qui est quand même un expert de l'IA, qui vient nourrir le projet. Et c'est absolument, c'est très intéressant parce que la valeur ajoutée, elle est autant dans le recueil du discours, du vrai discours et de son analyse, que dans la capacité de l'intelligence artificielle à sélectionner le bon discours au bon moment.
Oui, et puis
là,
oui,
c'est
enfin reprendre l'essentiel pour le
et comprendre l'état émotionnel du sportif sans halluciner sur son état. Donc là, on est vraiment à un croisement entre apport des sciences humaines et sociales, apport de la technologie pour permettre au grand public de ne pas se sentir isolé quand il part en tournoi sans son coach, ou au coach de ne pas finalement être dans la totale culpabilité permanente de ne pas suivre ses joueurs. Donc là, en première intention, on est sur le ping-pong, mais il y a d'autres sports.
Oui, c'est ce que je me disais, vous allez bien pouvoir sûr le décliner sur
plein d'autres disciplines.
Hein.
C'est un projet qui fonctionne avec plein de sports. En ce moment, c'est un sport donc individuel qu'on travaille en 1 contre 1, donc on peut directement imaginer le tennis. Pourquoi pas? Et en ce moment, on travaille aussi avec l'escalade. On rencontre aussi des coachs d'escalade comme on a fait avec le tennis de table. Et on commence de la même façon à récolter des enregistrements. Depuis peu, on le fait. Des enregistrements des coachs d'escalade. Parce que c'est différent. Il n'y a pas d'adversaire direct.
Non, mais il y a aussi de l'endurance.
Il y a trois disciplines différentes dans l'escalade. Donc il faut tout refaire, entre guillemets, dans le sens où il faut réapprendre la discipline, comment elle fonctionne, comment le coaching intervient. Mais après, la base même de l'informatique, de l'IA, ça reste la même, donc ça peut vraiment évoluer.
C'est passionnant. on marque une pause et puis on reprend cette interview. Je vous propose d'écouter Mylène Farmer sans contrefaçon et on se retrouve tout de suite après.
Thank you. En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Merci d'être sur IDFM Radio, c'est l'économie en direct. Et nous avons une conversation passionnante sur l'IA, donc avec Luca Terchani, ingénieur d'études, développeur de Discoach. Donc Luca, vous venez nous expliquer le but de votre application. Moi, je me disais, mais est-ce que le fait de passer par l'IA, est-ce que c'est pas un risque que vous soyez plagié et puis peut-être que votre application soit détournée?
Alors nous, dans l'IA qu'on utilise, déjà c'est une IA qui est fournie par Albert API, donc c'est le gouvernement.
Oui.
L'État français qui donne à des projets
donc très sécurisés,
c'est ça aussi, dont Discoach, accès à des gros modèles, des gros LLM on appelle ça, pour avoir des bons résultats. Ensuite dans cette IA on va mettre nos propres données que pour l'instant personne n'a. C'est les données que je vous parlais tout à l'heure, c'est les discours de coach qu'on a récupérés. On a fait beaucoup d'analyses dessus, on a remarqué beaucoup de tendances, et ça, ces tendances-là, on va essayer de les répercuter dans les réponses du coach IA. Donc sur ce côté-là, pour l'instant, on peut ne pas être plagié, on peut pas être plagié. Et aussi sur la qualité des réponses, on a un stagiaire qui avait travaillé sur tout ce qui est les blogs, des sites web, etc. Il a récupéré beaucoup de données précises où notre IA va se nourrir pour répondre aux joueurs. Donc c'est pas juste une IA, on va dire, globale.
C'est
si
ça,
je
oui.
Si je donne un problème à mon application, par exemple, je veux améliorer mon revers, si j'ouvre juste un chat sur une IA classique et je lui pose la même question, il y aura pas du tout la même réponse.
Oui. Alors, les IA aussi, pour ceux qui les utilisent, et j'en fais partie, sont plutôt flatteurs. Sont flatteuses. Donc, est-ce qu'il y a ce côté aussi dans votre application ?
Alors, ce côté, il est modifiable.
Ouais.
À la guise du joueur, le joueur, il a la possibilité de choisir plusieurs types de réponses. Il peut choisir, par exemple, une réponse qui le met en confiance, une réponse qui va parler vraiment de technique, donc il n'y aura pas vraiment de bien joué, tu es super, etc. Mais si le joueur, il est en manque de confiance, il peut très bien choisir avoir une réponse qui le booste, et dans ce cas-là, l'IA va aller dans son sens en le flattant, etc., en essayant de lui donner espoir dans son jeu, etc.
Très bien. Donc, en fait, vous avez pensé à tout.
On essaye.
Et alors, je m'adresse à Khadija parce que c'est un projet quand même commun, hein, je comprends. Khadija, donc, vous avez accompagné Luca pour arriver à cette finalité.
Alors, pas directement Luca, j'ai accompagné son porteur de projet qui est Julien Nongui, parce que je fais partie de l'équipe qui accompagne les projets de l'incubateur, comme si, Christelle l'a dit plus tôt.
ACT.
C'est ça. Et Discoach fait partie des projets incubés, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir faire des coachings individuels avec son porteur de projet en début d'incubation pour lui fournir les outils du management de l'innovation adaptés à son projet pour qu'il puisse identifier les points à risque et les points à prioriser.
Et vous pouvez nous donner un exemple?
Alors,
les points à risque.
Comme outil du management de l'innovation, on a le SWOT et la matrice des risques. En gros, c'est un outil visuel, la matrice des risques, qui permet d'identifier les points à risque sur différents piliers, que ce soit du pilier de la propriété intellectuelle, le pilier humain, le risque humain, parce qu'on sait que le risque humain, c'est un des risques les plus importants dans la création d'une start-up. J'ai également pu identifier des points à risque sur d'autres...
Oui, ça vous vient pas forcément comme ça. Oui, Christelle.
En fait, le rôle de Khadija, il est précieux dans cet incubateur. Il est de monitorer le projet et la santé du projet. Clairement, sur Discoach, le point identifié était sur la protection, comment on protège les données. Mais il était aussi que le porteur de projet était isolé, seul, et pas ingénieur IA. Mm-hmm. Donc, il y avait un point sur l'équipe à constituer. Et constituer une équipe, c'est toujours prendre un risque. Et du coup, de monitorer par les outils du management de l'innovation que maîtrise très bien Khadija, ça permet de visualiser est-ce que ce paramètre-là est dérisqué. Et c'est vrai qu'avec l'arrivée d'Anis et Luca en stage, on s'est rendu compte que c'était une équipe qui prenait vie et prenait forme. Oui. Et du coup, on a fait en sorte de la maintenir et de dérisquer un maximum, parce que le départ d'un des trois aurait pu être catastrophique pour la vie du projet.
Oui, je comprends.
Et c'est le rôle de Khadija de monitorer, en fait, de regarder comment évolue le projet, l'équipe, comment on protège. Et c'est un pilier de l'incubateur, parce qu'elle a une vision d'ensemble de tous les projets.
Merci, Christelle. Et ça veut dire, Khadija, que vous êtes aussi spécialiste en IA?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Non, justement, vous avez ce recul de ne pas être spécialiste en
c'est
IA.
C'est ça. Ouais, ouais. La plupart des projets...
C'est très fort, finalement.
La plupart des projets, ils ont des spécialités différentes. C'est-à-dire que là, ça parle un peu du tennis de table et ça intègre concrètement de l'IA. Et il y en a d'autres qui n'intègrent pas du tout d'IA et parlent de sujets que je maîtrise pas du tout que la plupart, ouais. Et moi, je suis vraiment là pour comprendre comment ça marche et j'essaye
de guider au mieux,
de donner des documents qui pourraient être utiles pour la suite du projet. Et voilà, j'ai vraiment un point de vue extérieur au projet.
Alors, Luca, justement, quand Khadija a observé vos travaux et puis est intervenue, vous l'avez pris comment? Ça vous a agacé ou au contraire
non,
avez trouvé que c'était judicieux?
Non, très bien, l'accompagne très bien. On a eu des intervenants qui ont fait des études de marché. Khadija était aussi là pour nous aider dans ses réunions, etc. Et même dans ce qui est, comme disait Christelle, composition de l'équipe, elle aide beaucoup aussi pour le futur.
Oui. Est-ce qu'il y a... alors, on a parlé de défis techniques et vous, Christelle, vous avez évoqué le fait que selon les questions qu'on posait à l'IA, on voyait toujours tout de suite que c'était raciste ou... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes éthiques dans la création de votre application? Enfin, est-ce qu'il y a eu des défis éthiques à résoudre ?
Fallait faire attention dans la qualité des réponses, quelle IA on utilise aussi et quel modèle. Ouais. En fait, les modèles, comme j'expliquais tout à l'heure, il faut trouver un modèle qui n'est pas trop biaisé, parce qu'en fait, un modèle, ça dépend de la personne qui l'a fait souvent. Je peux très bien créer un modèle qui va être raciste, c'est pas mon intention.
Oui, je comprends, mais faites ce que vous voulez, quoi.
C'est ça. Donc, utiliser un bon modèle, c'est important. Donc, le choix des modèles, on a fait des études sur ça, des benchmarks pour choisir quel modèle on va utiliser. Donc, ça, c'était un des défis.
Christelle ?
En fait, je prenais l'exemple de Grok, le modèle IA de X. Grok, à la base, c'est un algo, c'est un algorithme. On le met sur X, et c'est les données qui sont sur X qui vont l'entraîner et l'enrichir. Or, on observe bien que X, qui n'a aucune modération à rien du tout, quand Grok est lâché, sans être bridé, en quelques minutes,
il
devient misogyne et raciste. Parce que les données de base qui l'ont nourri sont misogynes et racistes. Et l'enjeu, en fait, d'une utilisation raisonnée et rationnelle de l'IA, c'est de gérer à la donnée sur laquelle elle s'est entraînée. Ça a été le défi de Discoach, trouver une IA qui n'est pas biaisée, à qui on va pouvoir mettre une donnée de qualité, qualifiée, pour qu'elle puisse s'entraîner dans une optique précise et ne pas partir en sucette.
Je comprends. Mais alors donc, il faudrait aussi travailler sur l'IA pour qu'elle ne soit plus ni misogyne ni raciste.
Il y a une équipe à l'université de Cergy qui travaille sur l'hallucination de l'IA, par exemple, parce qu'on sait qu'une intelligence artificielle qui s'est entraînée sur des masses de données a un peu de mal, si je puis dire, à ne pas répondre. Une IA n'est pas programmée à ne pas savoir. Et ça arrive souvent, elle invente des réponses. Et ça, c'est catastrophique. Parce qu'elle est,
Parce que ça peut, j'avais cité le cas au début où on parlait d'IA, justement, peut-être avec Madame la Bâtonnière, là, qui est venue, que je crois qu'aux États-Unis, un avocat a été radié parce qu'il a utilisé une jurisprudence que l'IA lui a transmise et qui n'existait pas.
Exactement.
Et il l'a ressorti telle que, donc il n'a pas vérifié.
En fait, l'IA, c'est intéressant. On pourrait juger quelqu'un qui a envie de directement répondre avec l'IA, mais en fait l'IA c'est intéressant, c'est pour trouver des sources. Je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment l'utiliser. Par exemple là, pour tout ce qui est avocat, un avocat pourrait, je sais pas, utiliser l'IA pour trouver les sources officielles, pas pour directement avoir des réponses. C'est intéressant.
Oui, pour avoir tout de suite
c'est ça, accès à de l'information rapidement. L'IA elle peut être très efficace pour ça, et après nous on peut faire notre part des choses à vérifier les sources et les sites qu'elle nous donne.
Alors je crois savoir que, parce que j'ai reçu justement le président du tribunal judiciaire de Pontoise avec le procureur, et ils sont en train de créer une IA pour le ministère de la Justice. Donc vous devriez vous mettre sur les rangs. Lucas, votre application donc est protégée. On a parlé de propriété intellectuelle, vous avez déposé un brevet.
C'est Christelle, pardon.
Le droit des brevets en France ne permet pas le dépôt de logiciels. Ça, c'est les brevets américains qui le permettent. Bien évidemment, il y a toute une série. On utilise tout l'éventail de propriété intellectuelle et industrielle que la France nous offre. Et il est très vaste. Et le brevet n'est pas... même si elle est la clé de voûte pour les technologies issues des sciences expérimentales, dans le cadre de l'informatique et des sciences humaines et sociales, c'est pas un référent nécessaire. Donc là, on mobilise plein de propriétés intellectuelles, de la marque, du protection de code, de la protection de bases de données. On a plein de choses qu'on peut faire, mais ça sera pas un recours à un brevet.
Oui, je comprends. Cette application est payante, probablement.
Probablement, c'est pas encore.
C'est encore en développement. Parce que là, vous êtes toujours en expérimentation.
C'est ça, exactement. Ouais. On fait beaucoup de tests. On essaie de mettre sur les stores pour faire des bêtas fermées, donc pour tester de notre côté. Et ensuite, dans un second temps, il y aura des tests auprès des joueurs et des coachs pour voir si l'application répond bien à leurs attentes.
Créer une application comme ça, ça doit être géant, non? Lucas.
Ça prend du temps.
Oui, ça mais je veux dire, ça doit être. Enfin, on doit se sentir Dieu.
Non. Je n'irai pas jusque-là, non. Non, mais c'est bien parce que quand on part de zéro, parce que je n'ai pas rejoint le projet avec déjà une base, déjà une application, je n'ai pas ajouté des pages ou des choses comme ça. J'ai vraiment créé le projet de zéro. Donc, c'est vraiment intéressant et c'est flatteur quand on voit le résultat aussi avancer.
Bien sûr, oui, je comprends. C'est pour ça que je pense que ça doit être très, très gratifiant. Allez, on fait encore une pause. Hein. Vous avez compris qu'il faut faire une pause pour relancer un petit peu le rythme. Donc, même si ce que vous dites est très, très intéressant. Et on va écouter Bubble Star de Laurent Voulzy.
J'ai mis ma vie à la gomme dans des guitares bubblegum. Ça paillait à mort dans mon décor. J'ai mis mon cœur pauvre bonhomme dans un joli métronome. J'ai quitté mon maillot de corps qu'on voit mon corps. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la. J'ai ramé pendant 10 ans dans un bureau pas marrant. Ils vont voir comme ça balance dans les assurances. C'est pas ces chanteurs, celui qui est si beau en couleur. Envoyez la lumière et laissez-moi faire. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la. Papa, maman, c'est votre. Ce ballon gonflé, ces bulles de papier doré. Maman, papa, ne risque-t-elle pas ces bulles qu'on zoom un jour de faire boum. Je les mettrai plus jamais, mes pantoufles et mon béret. Faut changer de costard pour faire la star. Je passe des mimines, ça c'est chouette, et je fais des minominettes. Ça c'est beau dans mon dodo. Écoute un peu la 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 la. Regarde un peu la 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 la.
Oh bubble star,
maman papa, ne risque-t-elle pas cette bulle qu'on zoom, 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 un jour de faire boum.
La 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 la.
Écoute un peu
la 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 la.
Regarde un peu
la 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 la.
Tension les yeux
la la.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
IDFM Radio, l'économie en direct, en compagnie ce matin de Christelle Ventura, directrice adjointe de CY Transfer en charge des sciences humaines et sociales, Luca Terchani, ingénieur d'études, développeur de DiscoCoach, et Khadija Sibi, alternante en accompagnement de start-up chez CY Transfer. Alors Khadija, vous avez, au fond, si vous n'étiez pas là, les projets n'existeraient pas, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un petit peu ça?
Pas vraiment, les projets ils arrivent à CY Transfer avec un stade de maturation qui est totalement différent des uns des autres. On en a qui sont en stade d'idéation et d'autres qui sont plus en stade de maturation, ce qui était le cas de DiscoCoach au départ. Il était en idéation, puis Luca a fait en sorte qu'il devienne mature. Et oui, mon rôle du coup c'est d'accompagner cette transition au sein de l'incubateur.
Et les projets vous sont fournis comme ça ou c'est vous qui choisissez? Comment ça se passe?
Alors, il y a une sélection des projets en entrée par l'équipe de CY Transfer, que ce soit Isabelle ou Christelle Ventura qui est juste là. Et moi, on me transmet les dossiers de candidature tels quels, du coup avec les termes techniques et
les spécificités brutes, en fait. Ouais.
Assez brutes. Et moi, j'ai tendance à les remettre en forme et à expliquer à ma manière pour que tout le monde puisse le comprendre. Je vulgarise un peu le texte.
Accessible.
Pour que tout le monde puisse le comprendre et que ce soit accessible à l'équipe sans qu'ils aient besoin de relire le dossier de candidature qui fait souvent plusieurs pages. Donc, je synthétise vraiment les documents. Et je prends un peu du recul sur le projet en...
Oui, en synthétisant, comme vous l'avez dit.
On est plusieurs à s'occuper des projets de l'incubateur, donc à CY Transfer. On est une équipe de 3 alternantes. On a Maëlle qui s'occupe plus du design global. On a Ange qui est en charge du juridique et moi qui m'occupe du management de l'innovation. Et on est vraiment à disposition, on va dire, des porteurs de projets pour les épauler durant leur période d'accélération, d'incubation. Quand ils en ont besoin. Donc ils nous sollicitent vu qu'on est directement à côté de... Enfin, nos bureaux sont vraiment à côté de l'incubateur, donc s'ils ont besoin de conseils ou d'aide
sur... Vous êtes là.
C'est ça, on est à proximité.
Donc quand vous dites que vous vulgarisez les projets, ensuite ils sont remis dans les mains de Christelle ou d'Isabelle qui vont choisir le projet, donner vie ou pas à ce projet. Alors, Christelle,
il y a plusieurs modalités de sélection. Quand les projets viennent de l'intérieur de l'université et qu'ils ont besoin de financement, il y a tout un circuit de décision avec des analyses d'experts qui vont vérifier est-ce que la technologie est robuste, est-ce que le projet est intéressant, est-ce qu'il y a un marché. Et après, ça va passer dans les instances pour financer le projet. Quand ce sont des entreprises qui viennent pour bénéficier de l'accélération, là déjà, on va s'interroger sur la réalité du projet. Est-il en harmonie avec les valeurs de l'université?
Bien sûr.
Première question.
C'est la même. C'est une question fondamentale.
Voilà, c'est une question fondamentale dont on ne fera jamais l'économie. Après, quelle est la valeur ajoutée de l'université dans ce projet? Est-ce qu'ils ont besoin de nous? S'ils ont besoin d'un énorme input business, on n'est pas forcément les mieux placés. Il y a des gens qui le font très très bien. Nous, c'est le pilier recherche. On est les seuls à le proposer, donc voilà, on va sélectionner les projets aussi en fonction de ce qu'on est capable de leur apporter. Et là, en effet, c'est une sélection qui se fait en interne, et c'est vrai que les dossiers sont quand même assez lourds. Ça prend du temps de prendre de la hauteur sur les dossiers et de pas rester que sur la science. Et le rôle de Khadija, c'est justement de prendre très rapidement de la hauteur, sans mettre les mains dans le cambouis de la science, si je puis dire, pour identifier les zones de friction. C'est très complémentaire de ce que fait Maëlle, puisqu'en design global, elle cartographie les zones de tension et les zones à aménager, etc. Et le côté juridique, c'est la propriété intellectuelle avec qui ils ont travaillé.
Vous avez pensé aussi à tout le spectre de...
Avec ces trois-là, avec ce trio, on arrive à avoir un 360 degrés sur le projet de façon assez rapide et ça nous permet de pouvoir prendre la décision et de voir si vraiment on a une valeur ajoutée à les accompagner.
Et cette organisation que vous avez, elle est propre à CY Transfer ou on la retrouve partout?
Elle est propre à notre écosystème l'avons conçue avec Isabelle Hofkens de toute pièce. Voilà, c'est quelque chose que nous avons maturé pendant longtemps toutes les deux. Et voilà, on a mis sur le papier cette organisation qui nous semble pertinente et qu'on est en train d'expérimenter nature.
Mais visiblement, positivement, j'ai l'impression.
Pour les retours, en tout cas, des sociétés accompagnées ou des projets accompagnés, le retour est positif à ce stade.
Khadija, qu'est-ce qui fait, selon vous, la réussite d'une start-up accompagnée?
Selon moi, ce qui fait la réussite d'une start-up, c'est la relation qu'on a avec le porteur de projet, s'il est ouvert à vos réflexions. C'est ça, s'il est ouvert à recevoir nos propositions et à les accepter ou à y réfléchir. Si on voit tout de suite qu'il est braqué et qu'il est pas forcément dans l'optique de vouloir modifier ou de vouloir ajuster son projet.
Il n'accepte pas le contradictoire.
S'il n'accepte pas le changement, ça pose souvent problème parce que on a une équipe qui travaille sur le projet. Du coup, on a plusieurs points de vue différents et ça peut être compliqué des fois.
C'est déjà arrivé, vous rencontriez des porteurs de projets qui soient braqués?
Braqués, pour le moment, non. On n'a pas eu on n'a pas eu ce souci-là. Pour l'instant, tout s'est bien passé avec les porteurs de projets qu'on a eus, mais si à l'avenir ça arrive.
Oui, il faut être ferme, hein. Ferme sur les prix.
C'est ça.
Lucas, comment voyez-vous l'évolution de l'IA dans les prochaines années au quotidien?
Au quotidien, l'IA, c'est une bonne question parce que ça avance tellement vite que déjà il y a 6 mois, je ne sais pas si j'aurais prédit comment ça serait aujourd'hui.
Oui.
Mais j'espère que ça sera beaucoup plus contrôlé.
Oui.
Aujourd'hui, il me semble qu'il y a quelques mois, il y avait quelque chose qui voulait être signé en Europe ou même dans le monde pour encadrer l'IA. Ça, c'était, je trouve, une bonne proposition parce qu'à la vitesse à laquelle ça avance, il faut mettre des freins, même si j'aime beaucoup ce domaine et je trouve qu'il peut faire, ça peut faire énormément de choses. Le freiner dans le bon sens sera un bon point pour l'avenir. Mais continuer à nous aider au quotidien et aider les entreprises aussi à se développer.
Alors moi, j'anime une autre émission dans laquelle je reçois des jeunes qui viennent de missions locales et qui, c'est eux qui choisissent le thème. Et donc l'IA revient souvent. Et l'un d'eux me disait que lui, il pense qu'à terme, l'IA va... Trop d'IA va tuer l'IA. Qu'est-ce que vous en pensez?
On peut être d'accord avec ça, c'est vrai. Parce que déjà, il y a beaucoup de personnes qui parlent de l'IA qui supprime beaucoup de postes.
Oui.
Dès qu'il y a une nouvelle innovation, avec l'arrivée d'Internet, c'était pareil. Il y a beaucoup de postes, on va dire, qui vont peut-être sauter, ou beaucoup de métiers qui vont être supprimés. Moi, je suis optimiste sur ce plan-là. Je me dis que s'il y a de nouvelles choses qui arrivent, il y a de nouvelles choses qui vont aussi arriver au niveau de l'emploi. Donc, je suis assez optimiste sur tout ce qui est création d'emplois.
Oui, c'est ça, ce seront d'autres emplois.
C'est ça, d'autres
certains
métiers
vont disparaître, mais il y en a d'autres qui
émerger.
Qui vont apparaître,
exactement.
Donc, vous n'êtes pas quand même pessimiste sur la disparition de l'IA?
Non, ça va.
Parce que c'est vrai qu'on se demande comment on ferait sans IA maintenant, un petit peu comme
les
l'électricité
jeunes,
ou l'eau.
Maintenant, au collège, je connais des personnes au collège qui disaient « Mais comment vous faisiez à l'époque
et
tout, pour
oui.
faire ci, pour faire ça ?» Alors que bon, j'étais il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. Donc, ça a tellement évolué vite que même les mentalités ont changé et en quelques années... Les jeunes générations, elles s'imaginent même plus comment on faisait à l'époque.
Oui, c'est clair. Alors, on parle souvent de transversalité entre les disciplines. Là, on peut dire que vos trois approches se complètent parfaitement, j'ai l'impression.
C'est l'objectif. Hein. Oui. C'est vraiment l'objectif de cet incubateur. C'est d'avoir tout un faisceau de compétences au service des jeunes entreprises. Et c'est en sens qu'on l'a construit. Et en fait, on est tous avec une forte appétence pour l'innovation, mais un regard différent à chaque fois sur l'innovation.
Bien sûr.
Autour de l'utilisation de l'IA, typiquement, moi je trouve que c'est beaucoup trop énergivore pour qu'on continue dans ce sens-là, parce que ça va être une catastrophe énergétique.
Ah bah oui.
Je prône un usage raisonné de l'IA, parce qu'en effet, c'est un outil formidable. Je pense pas qu'ils détruisent des emplois, puisque il y avait une étude, le nom m'échappe de, en gros, sur une classe de CP, 60% des enfants exerceront un métier qui n'existe pas encore.
Oui, oui.
Et typiquement, l'IA va générer des nouveaux métiers. Après, cette course effrénée vers l'IA, m'effraie dans le sens où elle est énergivore, et je ne sais pas si c'est raisonnable d'aller complètement dans ce sens. Ou si aujourd'hui l'état de la technologie déjà nous apporte beaucoup.
Oui.
Prenons le temps de veiller aux données. Prenons le temps de veiller à ce que l'IA produit de fausses informations,
de
fausses sources. Voilà. Concentrons-nous sur les résultats probants qui existent déjà avant de souhaiter aller plus loin. Prenons le temps. L'innovation, c'est aussi de réfléchir et de prendre son temps
pour
produire des choses qui vont avoir un impact positif.
D'autant que j'ai lu aussi, alors je ne sais pas si l'information est vraie ou pas, mais que pour la première fois de la création de l'homme, le cerveau serait en train d'être moins performant à cause de l'IA, enfin, alors, serait en régression.
Le problème, c'est qu'on n'a pas, enfin, on a mesuré 3 générations.
Donc
je pense qu'on n'a pas beaucoup de recul. toute société se réinvente en permanence.
Parce que c'est vrai que c'est, il y a une grande facilité, hein. On cherche quelque chose, paf, on pose la question à l'IA et on a la réponse.
Alors c'est peut-être, ça tout l'enjeu aussi des modèles éducatifs. Autant on a moins le réflexe d'aller chercher l'information parce que l'information nous arrive très facilement. On peut peut-être maintenant travailler sur le réflexe d'analyser cette information, oui, de recouper les sources, mm-hmm, et l'analyse critique. C'est peut-être une nouvelle façon d'envisager le mode éducatif.
C'est
développer plus avant l'esprit critique, mm-hmm, et ne pas prendre pour argent comptant ce que l'IA nous produit.
C'est très exactement ce que nous faisons avec nos ateliers médias auprès des jeunes. Merci infiniment à tous les trois, en tout cas, pour ce volet passionnant. Et puis, Discoach, c'est une entreprise aujourd'hui?
Pas encore.
Bientôt.
Pas encore, bientôt. Oui. D'accord. Bon, ben, on va vous suivre, hein, Lucas et Khadija. Christelle, quelques mots peut-être sur le PUI qui est si important pour CY Transfer, pour CY tout court.
Oui, le PUI est un label que nous sommes très fiers de porter. On a une petite trentaine de pôles universitaires d'innovation en France. C'est un financement de l'État. Là, nous entrons dans les évaluations à mi-parcours qui, comme tout financement de l'État, on est évalué. Et c'est une grande joie de voir les résultats à mi-parcours que nous avons produits, de voir l'intérêt des partenaires, des nouveaux partenaires qui s'apprêtent à intégrer le PUI,
qui
nous rejoignent. Donc c'est une nouvelle étape, un nouveau pas dans la structuration de cet écosystème sur le territoire. Donc on est très heureux de continuer l'aventure et nous l'espérons dans des très bonnes conditions. On ponctue encore nos années d'événements importants. Là, on est à nouveau labellisé sur le challenge Starthez pour les jeunes docteurs. Donc, ça sera fin juin à l'université de Cergy, à la Maison de la Recherche. Les doctorants peuvent s'inscrire pour 3 jours de formation à l'innovation. Donc, ça va être un bel événement avec à la clé le concours national de Starthez. Et puis, en décembre, notre événement annuel qui revient à Enghien-les-Bains, au Centre des Arts, avec les 3e assises de l'innovation. Ouais. Donc, j'espère pouvoir venir te voir pour en reparler.
Volontiers, très volontiers, on va prendre rendez-vous. Oui, c'était la première était un succès, mais la deuxième aussi encore plus.
La deuxième nous a permis aussi d'expérimenter des nouveaux formats. C'est vrai que la première, il fallait créer l'événement, lancer.
Sûr, ouais.
Ça a été la rencontre avec le CDA aussi, avec l'équipe du Centre des Arts. La deuxième, on s'est permis de faire un pas de côté par rapport aux traditionnelles journées. Donc, c'est vrai qu'on a mixé complètement, les tables rondes étaient avec des personnalités très différentes, on a eu des performances artistiques, on s'est interrogé sur le rapport entre les nouvelles technologies et la création. Ce pas de côté par rapport au schéma habituel des journées ou des rencontres, on va le conserver. On souhaite le conserver. On travaille avec le Centre des Arts justement pour tout ce qui va être performance, création et live. Du coup, la programmation est en cours et ça va être encore une très belle journée.
Très bien, merci beaucoup Christelle. Allez, je propose une dernière pause et puis après on conclura pour cette émission. Donc là, on va écouter Julien Doré et Francis Cabrel qui chantent Un homme heureux, une très belle reprise.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Ils ont quand ils s'en viennent le même regard d'un seul désir pour deux. Ce sont des gens heureux.
Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu les mêmes? Quand ils ont leurs problèmes, y a rien à dire, y a rien à faire pour eux. Ce sont des gens qui s'aiment.
Et moi je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne.
de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu rebelles? Ils ont un monde à eux que rien n'oblige à ressembler à ceux qu'on nous donne en modèle. Pourquoi les gens qui s'aiment sont-ils toujours un peu cruels? Quand ils vous parlent d'eux, y a quelque chose qui vous éloigne un peu. Ce sont des choses humaines. Et moi je te connais à peine, mais ce serait d'une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux. Mais si ça ne vaut pas la peine que j'y revienne, il faut me le dire au fond des yeux. Quel que soit le temps que ça prenne, quel que soit l'enjeu, je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux. Je veux être un homme heureux.
Vous êtes bien sur IDFM Radio.
Allez, c'est la dernière ligne droite de l'économie en direct dans laquelle nous avions aujourd'hui notre spécial CY Transfer en compagnie de Christelle Ventura, Luca Terchani et Khadija Sibi. Voilà, l'émission est terminée et nos auditeurs savent qu'il y a une tradition, c'est-à-dire je demande un mot de conclusion à la fin. Donc Khadija, le premier mot est pour vous.
Moi c'était ma première radio, du coup j'ai trouvé ça un peu impressionnant au début, mais j'ai trouvé ça intéressant, en plus vous nous mettez à l'aise, donc...
Bon bah tant mieux alors, vous reviendrez.
Oui,
avec plaisir, merci Khadija. Luca.
C'était très passionnant de pouvoir expliquer mon projet, et j'invite tout le monde aussi en mot de conclusion à s'intéresser à l'IA, faire attention aux enjeux écologiques, et oui, ne pas être trop alarmiste et rester positif sur ce sujet.
Oui, il faut rester quand même curieux sur d'autres, et puis sur d'autres supports que l'IA peut-être.
Aussi, hein, ouais. Exactement.
Ne pas dédaigner les livres et voilà, les supports papier.
S'intéresser à tout, ouais. Et c'est ça.
Ok, merci Lucas, et puis bonne route.
Merci
pour Discoach. Christelle, le mot de la fin.
Oh, il serait pour les porteurs de projets, juste leur dire que l'innovation n'est pas un long fleuve tranquille, mais qu'il y a énormément de ressources sur notre territoire pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas à solliciter les organismes, on se connaît, on travaille ensemble et on travaille en relais. Donc voilà, si on peut créer des opportunités ce matin autour des porteurs, c'est de leur envoyer le signal que l'accompagnement existe et il vous attend.
Alors vous faites bien de dire ça parce que si justement des porteurs de projets nous entendent, comment peuvent-ils vous rejoindre?
Alors ils peuvent nous retrouver et retrouver toutes nos informations sur le portail de l'innovation où vous verrez tous nos partenaires, vous aurez tous les liens, vous aurez toutes les possibilités de financement qui existent, une manne de renseignements et vous pourrez nous contacter.
Très bien, merci infiniment Christelle, et puis on se revoit avant pour les assises, peut-être même avant, hein,
avec
pour les
grand
assises
plaisir.
De l'innovation. Voilà, et moi je conclurai en disant que qu'il s'agisse de sciences humaines et sociales ou d'intelligence artificielle, l'innovation prend aujourd'hui des formes multiples et complémentaires, et vous en avez été une belle démonstration aujourd'hui. Merci à vous. Merci à chacun pour votre expertise et de nous en avoir fait profiter. Merci à nos auditrices, auditeurs de nous avoir suivis. Merci Francky et Enzo qui, voilà, termine son stage aujourd'hui, mais tu reviendras peut-être, Enzo, chez IDFM Radio. Et cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Son podcast donc sera disponible sur le site de la radio idfm98.fr. Vendredi, nouvelle émission de l'économie en direct. D'ici là, belle journée et bonne semaine. mais surtout les programmes se poursuivent sur IDFM Radio, donc n'éteignez pas votre soit votre ordinateur, votre portable ou votre radio, comme selon la façon dont vous nous écoutez. À bientôt.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
Wish that I could stay forever, but it ended up when the light was found again. You seem to love me, but now that it's over, you live your life like I wasn't there. Can you believe the things that you told me? 'Cause I never believed a single word you said. Was it just a way to fill the night up? And then your kiss, your touch disappeared as such. It's still hurtful to me. I'm in pain. I'm in pain. Think about it, just weep. I'm in pain, yeah. I'm in pain. And I'll never fail, shame. 'Cause my feelings were deep for you, deep for you, deep for you. Got it for you, it was game. I'll never get back to you, back to you, back to you. Did you believe I'd come in raw crawling? When you despise my love, I'll cover like nothing. You can wait for me, I'll never be showing. Yeah, up in all this mess, I decided only showing. Yeah, up in all this mess, I decided only leaving. It's still hurtful to me.
I'm in pain, yeah.
Oh, baby.
I'm in pain.
Think about it, just weep.
I'm in pain, yeah. I'm in pain.
Don't you ever come near me. And all of the things that you told me, all of the names that you call me, was that a lie when you held me? 'Cause that shit just fucked up my body. All of the things that you told me, all of the names that you call me, was that a lie when you held me?
Don't you ever come near me.
Come near me, baby. Don't you ever, 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 ever.
Ever, ever,
ever.
Don't you ever,
IDFM Radio, par nous, pour nous. Bonjour à tous, c'est Laetitia et Myriam sur IDFM Radio. On vous donne rendez-vous pour l'émission Femmes en Lumière, tous les mardis à 18h.
Une émission dédiée aux femmes inspirantes et à leur parcours, l'occasion de mettre sous les projecteurs les femmes de notre région et d'ailleurs.
À très vite sur IDFM Radio.
Bonjour, c'est Didier Delattre. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à la découverte de personnalités du Val-d'Oise, car j'aime leur richesse, leurs projets, leur engagement. Rendez-vous le jeudi à 18h, rediffusion le dimanche à 10h30 sur IDFM Radio et dans notre rendez-vous compte, évidemment.
Bonjour, c'est Roberto Milesi. Je vous réveille en musique de 6h à 6h30, du lundi au dimanche, pour un cocktail de musique vitaminé sur IDFM Radio.